Quand on pense aux femmes séduites par Zeus, on pense à la reine Alcmène, la mère du héros Héraclès aux 12 travaux. On pense encore à la reine Léda, qui a pondu un ou deux œufs pour donner naissance, notamment à Hélène, la plus belle femme du monde. On pense enfin à la princesse Europe, qui traversa la Méditerranée sur le dos du dieu, sous les traits d'un magnifique taureau blanc. Pourtant, on oublie souvent qu'une femme a été approchée par le dieu sous forme d'un nuage, et qu'elle a dû fuir sur la terre et sur la mer le courroux et la jalousie d'Héra, la femme légitime de Zeus. Io, la prêtresse métamorphosée en vache. Prenons le temps d'observer son histoire par le petit bout du mythe. Aujourd'hui, Io ou la prêtresse harcelée. Notre histoire débute dans les terres argiennes, en plein cœur du Péloponnèse, en Grèce, dans la cité d'Argos. La ville est sous la protection de la déesse des mariages, Héra. Le roi Inachos avait fait bâtir un magnifique temple en l'honneur de la déesse, qu'il avait préféré à Poséidon. Inachos était fils d'Okeanos et de Thétis, les titans de l'océan. Il était donc un dieu fleuve, mais il vivait parmi les humains. Une querelle avait éclaté entre Héra et Poséidon pour savoir qui dominerait la région d'Argos. Et Inachos, accompagné d'autres juges mortels, choisit Héra, subissant le courroux de Poséidon. Le dieu de la mer fait s'assécher le lit du fleuve chaque été. On prête à Inachos de nombreux enfants qu'il a eus avec la reine Mélia, et parmi eux, c'est la jeune Io qui nous intéresse. D'autres versions donnent à Io d'autres parents, principalement Iassos et Lecanet, ou encore Pyrène, un membre de la famille royale de Corinthe. Mais ce n'est pas ce que retiennent la plupart des auteurs, et notamment les auteurs de tragédies. On ne sait rien de la jeunesse d'Io. On apprend seulement qu'elle devient prêtresse de la grande déesse Héra, Héra dite argienne, c'est-à-dire celle qui protège la ville d'Argos, et Io lui est totalement dévouée. Ovide nous conte dans ses métamorphoses les sentiments d'Inachos, ou d'Inachus en latin, absent d'un rassemblement des dieux fleuves de sa région. Seul Inachus est absent. Retiré au fond de son antre, il grossit ses os de ses larmes. L'infortuné pleure Io, sa fille, comme s'il l'eût perdue. Il ne sait si elle vit encore ou si elle est chez les mânes. Mais ne la trouvant nulle part, il croit qu'elle n'est nulle part et il craint pour elle le pire destin. Jupiter, l'ayant vu revenir du fleuve paternel, lui avait dit « Ô vierge digne de Jupiter, toi dont la couche fera de celui qui t'aimera, quel qu'il soit, un bienheureux, viens sous les grands ombrages de ces bois. » Et il lui avait montré les ombrages des bois, tandis que le soleil est brûlant et qu'il atteint le sommet de son orbite à moitié parcouru. Si tu crains de pénétrer seul dans les repères des bêtes sauvages, un dieu est là pour te protéger. Avec lui, tu pourras en toute sûreté avancer jusqu'au fond des bois. Et il ne sort pas de la plèbe des dieux, c'est moi qui tiens dans ma main puissante le sceptre du ciel, moi qui lance la foudre rapide, ne me fuis pas. Elle fuyait en effet, déjà elle avait dépassé les pâturages de Lerne et les campagnes boisées du Lyrcée, quand le dieu cacha la terre en l'enveloppant, au loin, dans une nuée ténébreuse. Il arrêta la fuite de la nymphe et lui ravit l'honneur. Jupiter, le Zeus des Romains, apparaît ici comme une nuée ténébreuse, donc un nuage noir qui vient envelopper la jeune fille, qu'Ovide nomme nymphe, en référence à la fois à sa jeunesse et à sa propre naissance divine. On ne sait rien, cela dit, de l'origine des sentiments du dieu de la foudre. Une version très minoritaire fait intervenir une fille du dieu Pan et de la nymphe Écho, celle qui est connue pour son amour impossible avec Narcisse. Il s'agit de la jeune Iynx. Selon des scoliastes ou des commentateurs, celle-ci aurait donné un breuvage d'amour à Zeus pour qu'il tombe amoureux d'Io. Héra ne se venge pas moins, puisqu'elle transforme Iynx en statue de pierre ou bien en oiseau, le torcol qui était utilisé dans les enchantements. Mais revenons à Ovide et à la réaction d'Héra, nommée Junon, sous la plume du poète romain. Cependant, Junon abaissa ses regards sur la campagne. Elle s'étonna que des nuages passagers lui eussent donné l'aspect de la nuit pendant une journée brillante. Elle reconnut qu'il n'était ni produit par le fleuve, ni renvoyé par la terre humide. Elle cherche de ses yeux tout autour d'elle où est son époux, car elle le connaît assez pour l'avoir tant de fois pris en faute ses infidélités. Ne l'ayant pas trouvé dans le ciel, Ou je me trompe, dit-elle, ou je suis outragée. Elle descend du haut de l'éther, prend pied sur la terre et ordonne aux nuages de se retirer. Mais Jupiter avait prévu son arrivée, et il avait changé la fille de Linacus en une génisse d'une blancheur éclatante. Même ainsi, elle était belle encore. La fille de Saturne, quoique à contre-cœur, admire la perfection de ses formes. « À qui appartient cette génisse? D'où vient-elle et quel est son troupeau ?» demande Junon, comme si elle ignorait la vérité. « Elle est née de la Terre, » répond Jupiter, inventant un mensonge pour couper court à ses questions sur l'origine de l'animal. La fille de Saturne demande à son époux de le lui donner. Que peut faire le dieu? Il est cruel de livrer l'objet de son amour. Ne pas le donner est suspect. Si la honte le persuade d'un côté, de l'autre l'amour le dissuade. La honte eût bien été vaincue par l'amour, mais si Jupiter avait refusé de donner à sa sœur, à la compagne de sa couche, un aussi léger présent qu'une génisse, il aurait pu faire croire que ce n'était pas une génisse. En possession de sa rivale, la déesse ne bannit pas sur le champ toute crainte. Elle se méfia de Jupiter et redouta un larcin jusqu'au jour où elle confia la garde d'Io à Argus, fils d'Arestor. Argus avait une tête entourée de centieux. Il se reposait à tour de rôle, par groupe de deux à la fois. Tous les autres veillaient et restaient en faction. Quelle que fût son attitude, il regardait du côté d'Io. Il avait Io devant les yeux, même le dos tourné. Le jour, il lui permet de paître. Quand le soleil a disparu sous les profondeurs de la terre, il l'enferme et il fixe d'indignes liens autour de son cou. Elle se nourrit de feuilles d'arbres et d'herbes amères. Elle n'a d'autre lit pour se coucher que la terre, qui n'est pas toujours couverte de gazon, d'autres boissons que l'eau des ruisseaux fangeux. Elle aurait bien voulu tendre à Argus des bras suppliants, mais elle n'avait pas de bras à tendre à Argus. Elle tenta de se plaindre, mais il ne sortit de sa bouche que des mugissements. Leur son lui fit horreur et sa propre voix l'épouvanta. Elle se dirigea vers les rives où elle avait coutume de jouer, les rives de Linacus. Quand elle aperçut dans l'eau ses cornes nouvelles, prise de terreur, éperdue, elle recula, se fuyant elle-même. Les naïades ignorent et Linacus ignore aussi qui elle est. Mais elle suit son père, elle suit ses sœurs, elle se laisse toucher et s'offre à leur admiration. Le vieil Linacus accueille des herbes qu'il lui tend. Elle lèche les mains de son père, elle en baise les paumes et ne peut retenir ses larmes. Si les paroles pouvaient lui venir, elle demanderait du secours, elle dirait son nom et ses malheurs. À défaut de paroles, des lettres que son pied a tracées dans la poussière ont révélé le triste secret de sa métamorphose. « Malheureux que je suis !» s'écrie Linacus, son père. Et il se suspend aux cornes et au cou de la blanche génisse, qu'il entend gémir. « Malheureux que je suis !» répète-t-il. « Es-tu bien ma fille, que j'ai cherchée par toute la terre ? Quand je ne t'avais pas encore trouvée, tu étais pour moi un moindre sujet de deuil que depuis que tu m'es rendue. Tu te tais, tu ne peux t'entretenir avec moi, des soupirs seulement s'échappent du fond de ton cœur, et tout ce que tu peux faire, c'est de répondre à mes paroles avec des mugissements. Et moi qui, dans mon ignorance, préparais pour toi la couche et les torches nuptiales, j'espérais d'abord un gendre, et puis des petits-fils. C'est maintenant dans un troupeau que tu dois avoir un époux. Dans un troupeau que tu dois avoir un fils. Et la mort ne peut pas me délivrer de si grands chagrins. Pour mon malheur, je suis un dieu. La porte du trépas qui m'est fermée me condamne à un deuil éternellement prolongé. » Tandis qu'il exhale ses plaintes, Argus, constellé dieu, le repousse. Il arrache la fille à son père. Il l'entraîne dans des pâturages écartés. Puis il va à quelque distance se poster sur le sommet d'une montagne élevée, et de là-haut, toujours assis, il fait le guet dans tous les sens. L'histoire d'Ovide pourrait s'arrêter ici, puisqu'Argos semble impossible à tromper. Mais le roi des dieux connaît des tours qui permettraient de mettre en déroute définitivement Argos sans agir lui-même à découvert. Voici le dialogue que nous propose l'auteur Lucien de Samosate dans son recueil de dialogues des dieux. Deux personnages sont présents, Zeus et Hermès. Zeus: tu connais la fille d'Inachos, la belle enfant, Hermès? Hermès: oui, tu veux parler d'Io? Zeus: elle n'est plus fille, mais génisse. Hermès: voilà qui est prodigieux. Comment a-t-elle changé de forme? Zeus: c'est Hera qui l'a métamorphosée par jalousie. Mais elle a imaginé un autre supplice contre la malheureuse. Elle a mis près de la génisse un berger à 100 yeux du nom d'Argos, qui l'a fait paître sans jamais dormir. Hermès: que faut-il que je fasse? Zeus: descends à Némée. C'est dans ces parages qu'Argos l'a fait paître. Tue-le, emmène Io en Égypte, à travers la mer, et fais d'elle Isis, que désormais elle soit déesse chez les peuples de ce pays, qu'elle fasse déborder le Nil, qu'elle envoie les vents et sauve les navigateurs. Dans ce bref dialogue, Lucien fait mentir Zeus concernant la métamorphose d'Io. Pour Ovide, c'est Zeus qui a changé Io en vache. De même, le mythographe Apollodore nous dit bien que c'est le dieu de la foudre qui opère cette métamorphose afin de cacher Io des regards d'Héra. Revenons donc au récit d'Ovide. Le souverain des dieux ne peut supporter plus longtemps de voir la petite fille de Phoronée accablée de si grands maux. Il appelle celui de ses fils qu'une brillante Pléiade a enfanté et lui donne l'ordre de livrer Argus à la mort. Ne prenant que le temps de fixer des ailes à ses pieds, de saisir dans sa main puissante la baguette qui répand le sommeil et de couvrir sa chevelure avec son chapeau, sans autre préparatif, le fils de Jupiter, du haut du séjour paternel, s'élance sur la terre. Là, il enlève son chapeau et dépose ses ailes. Il ne garde que sa baguette. Il s'en sert, déguisé en berger, pour conduire à travers champs, hors des chemins frayés, des chèvres qu'il a amenées avec lui. Il construit un chalumeau et se met à en jouer. Cette harmonie, alors nouvelle, l'art du musicien, ravisse le gardien posté par Junon. « Qui que tu sois, tu pourrais bien t'asseoir avec moi sur ce rocher, » dit Argus. « Nulle part les troupeaux ne trouvent une herbe plus grasse et, comme tu vois, l'ombre y est propice au berger. » Le petit-fils d'Atlas s'assied. Par de longs récits, il retient sous le charme de sa parole le jour qui s'enfuit, et avec la mélodie de ses roseaux assemblés, il essaie de vaincre les yeux vigilants. Le monstre, cependant, lutte pour vaincre les douceurs du sommeil, et si certains de ses yeux sont déjà assoupis, les autres veillent encore. Dans cet extrait d'Ovide, Mercure raconte à Argos l'histoire de Syrinx, une naïade, donc une nymphe, aimée par le dieu Pan. Ce dieu sauvage lui courait après, mais elle lui échappe en demandant à être changée en roseau. Pan l'attrape tout de même, coupe les roseaux pour en faire une flûte, la célèbre flûte de Pan, dans laquelle il souffle gaiement au quotidien. Mais Mercure n'a pas le temps de raconter cette histoire, offerte au lecteur des métamorphoses plus qu'à Argos. Voici la suite de l'histoire. Le dieu du Silène allait raconter cette histoire quand il vit que tous les yeux d'Argus, succombant au sommeil, s'étaient fermés. Aussitôt il se tait, et, pour l'assoupir plus sûrement encore, il promène sur ses paupières languissantes sa baguette magique. Puis brusquement, tandis que la tête s'incline, il la frappe de son épée recourbée à la jointure du cou et la fait rouler, toute sanglante, à bas de la roche, dont elle souille les flancs escarpés. Argus, te voilà gisant. La lumière dont tu animais tous tes regards s'est éteinte et tes sentieux sont plongés dans la même nuit. La fille de Saturne les recueille, elle en couvre le plumage de l'oiseau qui lui est cher et les répand comme des pierres précieuses sur sa queue étoilée. Au même instant, la déesse s'est enflammée. Sans donner à sa colère le temps de s'apaiser, elle a évoqué l'horrible Érinis devant les yeux et dans l'âme de l'Argienne, sa rivale. Et elle a caché au fond de son cœur les aiguillons d'une démence qui l'emporte épouvantée dans tout l'univers. Tu devais être, ô Nil, l'extrême limite de ses immenses fatigues. Dès qu'elle a atteint le fleuve, elle tombe à genoux sur ses bords. Le cou renversé en arrière, elle dresse la tête et, levant sa face vers le ciel, c'était tout ce qu'elle pouvait lever, par ses gémissements, par ses larmes et par de lamentables mugissements, elle semble se plaindre à Jupiter et lui demander la fin de ses maux. Le dieu, après avoir entouré de ses bras le cou de son épouse, la conjure de mettre un terme à un si long châtiment. « Pour l'avenir, lui dit-il, bannis toute crainte, jamais elle ne te causera de chagrin. » Et il prend les étangs du Styx à témoin de son serment. La déesse apaisée, Io reprend aussitôt sa première forme. Elle redevient ce qu'elle était auparavant. Ses poils tombent de son corps, ses cornes décroissent, l'orbite de ses yeux se rétrécit, sa bouche se resserre, ses épaules et ses mains reparaissent, et chacun de ses sabots s'évanouissant est remplacé par 5 ongles. De la génisse, il ne lui reste que son éclatante blancheur. Les services de 2 pieds suffisent à la nymphe. Elle se redresse, mais elle évite de parler, dans la crainte de mugir comme une génisse. Elle essaie timidement de retrouver le langage qui lui a été si longtemps interdit. Maintenant, c'est une déesse, à qui la foule vêtue de lin rend de toutes parts un culte solennel. Maintenant, on lui donne pour fils Epaphos, né enfin, dit-on, de la semence du grand Jupiter. Bien des villes lui ont consacré des temples à côté de ceux de sa mère. Et pour les anciens, Io est rapproché d'Isis, comme l'a dit Zeus dans l'extrait de Lucien et le narrateur dans le poème d'Ovide. Isis est la grande déesse d'Égypte, la femme d'Osiris et la mère d'Horus. Isis était parfois représentée comme une femme à cornes de vache. Et Epaphos est quant à lui rapproché du dieu Apis, le dieu de la fertilité connu sous la forme d'un taureau. Mais n'allons pas si vite en besogne. Avant d'arriver en Égypte, Io traverse de nombreuses parties du monde et voici le récit qu'en fait Apollodore. Mentionnant au passage un tout petit personnage qui a été oublié par Ovide. Tout du moins qui va remplacer l'Érinie de tout à l'heure, c'est-à-dire la déesse vengeresse. Héra envoie alors un temps contre la génisse. Celle-ci gagna tout d'abord le golfe ionien, ainsi nommé à cause d'elle. Ensuite, après avoir parcouru l'Illyrie et franchi Lemos, elle traversa le détroit qui s'appelait alors détroit de Thrace et qui s'appelle maintenant, à cause d'elle, le Bosphore, le passage de la vache. Elle s'en alla en Scythie et au pays des Cimériens et, après avoir erré sur de vastes étendues de terre et traversé à la nage de vastes étendues de mer, elle arriva enfin en Égypte. Là, elle retrouve sa forme primitive et, sur les bords du fleuve Nil, elle met au monde un fils, Epaphos, c'est-à-dire la toucher. Héra demande aux courettes de faire disparaître l'enfant, ce qu'ils firent. Zeus, lorsqu'il l'apprend, tue les courettes. Io, de son côté, se mit à la recherche de son fils. Elle erra dans toute la Syrie. On lui avait révélé que son fils s'y trouvait, nourri par la femme du roi de Byblos. Et, quand elle eut trouvé Epaphos, elle revint en Égypte et se maria avec Télégonos, qui régnait alors sur les Égyptiens. Quant au fabuliste Hygin, il omet lui aussi le temps qui est censé suivre Io dans ses moindres déplacements. Voici ce qu'il dit. Mais Junon la terrifia et la contraignit, sous l'effet de la peur, à se jeter dans la mer, qui reçut le nom d'Ionienne. De là, elle nagea jusqu'en Scythie, ce qui valut au pays le nom de Bosphore. Et en Égypte, elle donna naissance à Epaphos. Dans une autre de ses œuvres, l'Astronomie poétique, Hygin nous rapporte cette variante de l'histoire de la constellation du Taureau. On le mit au ciel, dit-on, parce qu'il a transporté sans encombre Europe en Crète, selon le récit d'Euripide. D'après quelques-uns, Io, changé en vache, obtint de Jupiter une réparation patente en prenant la place au ciel, de manière que la partie antérieure de son corps fût visible sous l'aspect d'un taureau. Mais le reste n'apparut guère. Le personnage d'Io apparaît aussi dans la tragédie Prométhée enchaîné, du dramaturge Eschyle. Dans celle-ci, on voit Prométhée après le vol du feu aux dieux pour le donner aux hommes. Comme châtiment, le titan est enchaîné au mont Caucase et croise de nombreux personnages, dont Io qui intervient brutalement. Quel est ce pays, cette race? Qui dois-je dire que j'avais devant les yeux, battu de la tourmente sous un harnais de roc? Quelle faute expies-tu en te mourant ici? Révèle-moi donc en quel point du monde, malheureuse, m'ont porté mes erreurs. Ah, un temps de nouveau me taraude, infortuné. C'est le spectre d'Argos, fils de la terre. Là, terre, éloigne-le. Je m'épouvante quand je vois le bouvier aux yeux innombrables. Le voici qui s'avance, avec son regard perfide. Même mort, la terre ne le cache pas. Il sort des enfers pour donner la chasse à l'infortuné, pour la faire errer, affamée, sur le sable qui borde les mers. Prométhée et le cœur de la pièce tentent de rassurer Io, harassée par ce temps et rendue folle par Héra. Le titan connaît le passé et le futur, et il sait dire à Io à la fois ses errances passées, mais aussi ses douleurs et sa tranquillité future. Il parvient même à prédire à Io les mésaventures de ses descendantes. Voici ce qu'il en dit. Il est une ville, Canope, à l'extrémité du pays, à la bouche même et sur un atterrissement du Nil. C'est là que Zeus te rendra la raison en t'imposant sa main calmante, d'un simple contact. Et pour rappeler comment Zeus l'a mis au monde, celui que tu enfanteras sera le noir Epaphos, qui cultivera tout le pays qu'arrose le large cours du Nil. 5 générations après lui, 50 vierges, sa descendance, reviendront malgré elle à Argos pour échapper à un hymen avec des proches, leurs propres cousins. Eux, dans la frénésie du désir, 1000 ans pressant des colombes, arriveront à leur tour chasseurs en chasse d'un hymen interdit. Mais le ciel leur refusera celle qu'ils convoitent, et la terre Pélage les ensevelira, vaincus par le meurtre à face de femme, dont l'audace veille dans la nuit. Chaque épouse arrachera la vie à son époux et trempera dans son sang l'épée à double tranchant. Une seule, enivrée du désir d'être mère, se refusera à tuer le compagnon de son lit et laissera s'émousser son vouloir. Dans cet extrait, vous avez très certainement reconnu le mythe des Danaïdes, qui a déjà fait l'objet d'un épisode de ce podcast, celui sur Hypermnestre. Et ces Danaïdes ont bel et bien erré longuement, tout comme Io, mais à l'inverse, en partant d'Égypte pour rentrer dans leur terre ancestrale à Argos. Prométhée parle aussi du descendant d'Io le plus célèbre, Héraclès, qui viendra le délivrer de son sort sur ordre de Zeus. Malgré ces prédictions de Prométhée, on ne sait rien de la fin de vie d'Io auprès de Télégonos, ce roi qu'elle aurait épousé, ou tout du moins auprès de son fils Épaphos, qui s'installe durablement sur ses terres en épousant Memphis, la fille du Nil, et en fondant la ville du même nom. L'assimilation à Isis, ou la transformation en constellation, viennent gommer les épisodes finaux de sa vie. Et c'est ainsi que s'achève notre parcours dans l'histoire d'Io, qui aura parcouru une bonne partie du monde, à la recherche d'une terre où vivre saine et sauve, puis même à la recherche de son propre fils. Tout cela après avoir été longuement harcelé par la colère des rats et le temps qui lui avait été lancé comme une érinie qui suit un meurtrier. Il s'agit d'un épisode spécial publié dans le cadre du Podcaston. De nombreux créateurs de podcasts se réunissent cette semaine pour aider des associations et des ONG à recueillir des fonds. Je vous donne de plus amples informations en description de l'épisode et vous laisse vous rendre sur le site internet du Podcaston. Plusieurs podcasts du label Tout Savoir ont participé. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre épisode commun. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast par le petit bout du mythe. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre ces petites histoires de la mythologie. Vous pouvez prolonger l'aventure en lisant certains ouvrages qui ont été cités. Je vous mets la bibliographie en description et dans l'article du jour sur le site du podcast. Le tout accompagné d'un dossier documentaire. À bientôt pour un nouveau coup d'œil par le petit bout du mythe.